Vous vous apprêtez à écouter C'est quoi le rapport ? Tout au long de cette aventure, on vous invite à nous transmettre vos remarques, vos questions ou désaccords afin qu'on puisse les prendre en compte pour une discussion au 8e épisode qui fermera ce premier cycle de podcast. On vous souhaite une bonne écoute.
Second souffle,
un méta-réseau
pour le déploiement
de l'éthique en société.
Cherchons ensemble, si vous voulez, les lois de la société et le mode dont ces lois se réalisent. Après avoir démoli tous les dogmatismes a priori, ne nous posons pas en apôtres d'une nouvelle religion. Accueillons, encourageons toutes les protestations. Flétrissons toutes les exclusions, tous les mysticismes. Ne regardons jamais une question comme épuisée.
Second souffle, un collectif libertaire
et anti-agiste.
Bonjour et bienvenue dans C'est quoi le rapport, un podcast de Second Souffle. On remercie le studio ZEF, qui est une radio associative à Blois, pour le prêt du matériel qui nous permet l'enregistrement, et l'association éducative de la Butte pour le lieu où l'on enregistre. Je suis avec Augustin, Thomas, Raphaël et Gaston, et moi c'est Romane. Et aujourd'hui nous allons parler de consentement, des modes de prise de décision entre autres. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer ?
Ouais, moi je veux bien. Vu qu'on veut aborder le consentement dans un contexte d'éducation populaire, je trouverais intéressant de repartir d'un concept qu'on a déjà abordé dans les épisodes précédents, qui est l'environnement suscitant. Déjà le mot susciter, ça veut dire inviter un peu, enfin c'est donner envie, ouais, un peu. Susciter, c'est impulser quelque chose, quoi. Mm. Et du coup, quand on dit environnement suscitant, ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez dépersonnalisé. C'est que le contexte dans lequel on est impulse des choses, fait naître des choses, quoi. Et quand on en parlait en off tout à l'heure, je trouvais que Roman, t'avais un exemple intéressant. Pendant qu'on préparait cet épisode, on a abordé un sujet qui, en fait, un exemple que je trouvais pertinent.
Oui, bah, en fait, il y a souvent une situation qui arrive quand on veut jouer à des jeux de société avec d'autres personnes, qui est qu'il y a des jeux de société qui ont plus de succès que d'autres. Par exemple, le Loup-Garou, c'est un jeu qui a des problématiques spécifiques et ça peut être une intention de vouloir susciter une envie de jouer à d'autres jeux qui ont possiblement, par exemple, pas des structures excluantes, voilà, problématiques. Et moi, ça me pose toujours question de comment je fais pour susciter une envie plus grande que celle de jouer au loup-garou, mais qui ne soit pas non plus de la manipulation, enfin qui donne envie en fait de découvrir autre chose, qui amène une autre possibilité, mais que ce soit un vrai test et pas oui bon d'accord, on va tester ton jeu, mais c'est vraiment avec beaucoup de ressentiment.
Loup-garou, c'est un jeu de rôle dans lequel il y a des phases. Des fois, on dort, des fois, on a les yeux ouverts. Quand on dort, on a les yeux fermés. Et en fait, on doit exclure des gens au fur et à mesure en pensant que c'est éventuellement eux ou elles, les loups-garous. Le but étant pour les villageois de supprimer tous les loups-garous du jeu. Et forcément, donc, les loups-garous souhaitent dévorer tous les villageois. Le problème de jeu-là dont tu pointes, c'est effectivement que l'exclusion du jeu... En fait, elle se base au début sur des choses qui ne sont pas nécessairement liées au jeu parce que le jeu n'a pas encore proposé le temps suffisant pour qu'on puisse développer une stratégie qui dise « Ok, c'est peut-être cette personne qui est le loup-garou parce que... » Et du coup, ça risque de glisser sur des « C'est elle le loup-garou parce qu'en fait, je ne l'aime pas » ou peu importe. Et ça me rappelle d'autres choses plus largement de toutes les pratiques qu'on peut avoir dans des espaces éducatifs. Il y a des choses qui peuvent nous énerver parfois. Comme à chaque fois, ils veulent jouer au foot, à chaque fois, ils ou elles veulent faire quelque chose et qui peut des fois nous énerver en tant qu'acteur ou actrice éducatif parce qu'on se dit, ok, bon, ils connaissent, on a envie de les amener vers autre chose. Si jamais des enfants me demandent de faire le foot, ça me dérange de dire non, on va pas faire de foot parce que je me base uniquement sur mon préjugé, genre le foot. Il y a des dynamiques excluantes, les filles vont être exclues, les moins valides vont être exclues, ça va toujours être les mêmes qui vont avoir le ballon. Mmh. Si je me base sur ces préjugés-là, je ferai jamais de foot avec les enfants, en fait. Je me demande à chaque fois comment est-ce que je peux déployer un environnement qui fait que je rencontre le foot avec eux, je regarde comment ça se passe, comment je peux même les mettre en réussite dans l'activité. Et comment on développe un environnement suscitant autour de ça ? Je crois que Raph, on a déjà fait pas mal de séjours ensemble. Toi, tu avais fait quelque chose autour du foot, si tu veux en parler.
Bah, Ouais, quand les enfants me proposaient de faire un foot, je disais ok, on va faire un foot, mais je prenais toujours du matériel pour faire d'autres jeux ou d'autres activités à côté. Et bah, souvent, je prenais du matériel de jonglage parce que je savais que c'était quelque chose d'un peu plus inclusif, on va dire. Enfin, bah, tout le monde pouvait s'y retrouver, que chacun progressait à la vitesse où il voulait, tout ça. Donc, même dans le cas d'un groupe assez mixte où on avait des situations initiales pas hyper enjouantes, où, avec des gars qui jouaient au foot et puis des filles qui regardaient sur le côté, qui les encourageaient. Et puis, au final, je sais pas, il y a un garçon ou une fille qui en a marre de regarder le foot, qui se dit, bah, tiens, il y a du matériel de jonglage, pourquoi pas jongler, en fait. Ou un garçon qui en a marre de jouer au foot et qui se dit, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, bah, pourquoi pas du jonglage, voire qui rejoint la fille qui est en train de jongler. Et du coup, là, à ce moment-là, il y a un espace de mixité fille-garçon qui est des fois pas facile à trouver dans les activités. Ou alors, bah, moi-même, des fois, je me mettais à jongler sur le côté pour montrer que c'était possible, quoi. Pas dans l'optique de les impressionner, mais plus pour leur dire, hey, regardez, il y a ça aussi qui est possible.
Et d'ailleurs, ça peut même être la sanction, en fait, parce que le foot, parfois, on se retrouve à exclure des gens parce qu'ils ont des comportements violents ou des choses comme ça. Et du coup, si la sanction, c'est OK, en fait, là, tu peux plus être dans le groupe foot parce que là, tu es en train de faire quelque chose qui est problématique. Est-ce que tu veux aller jongler en attendant pendant un certain temps, etc. Ça peut être aussi des ouvertures vers des sanctions qui ne sont pas des choses qui font mal, type punition, qui cherchent à infliger de la peine, quoi. Et donc qui se baseraient sur de la motivation externe.
Ouais, c'est ça. Pour moi, l'environnement suscitant, c'est une espèce de compromis qui permet d'éviter des systèmes de domination tout en proposant quelque chose, en laissant des ouvertures, juste des portes ouvertes et pas en contraignant. Ça veut dire que même si on est amené à sanctionner au foot, on ne va pas non plus le faire exprès pour qu'à un moment, il se dirige vers le jonglage. Il n'y a pas nécessairement, et même on essaye de ne pas en avoir, de dimension de manipulation dedans. Mmh. C'est une proposition, une ouverture qui peut être saisie ou pas. Si elle n'est pas saisie, bah, ok, tant pis, ce n'est pas grave. C'est une porte qui était ouverte, personne ne l'a utilisée. Voilà, ce sera peut-être une prochaine fois ou pas.
Et à la fois, moi, c'est ce qui me pose question aussi souvent quand on cherche ces environnements suscitants, c'est le nombre de possibilités qui est laissé. Après, j'y réfléchis plus du coup en dessin, mais souvent, il y a des activités dessinées où il y a un seul modèle qui est montré. Du coup, c'est en fait la seule chose que tu es capable de penser à ce moment-là. Et c'est la seule chose qu'on te propose, donc tu peux y consentir, mais pas vraiment en même temps. Et du coup, j'essaye de me dire qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un panel de choix à susciter qui est très grand, bon, ce qui demande évidemment beaucoup plus de travail, hein, mais dans mon idéal, en tout cas, ça, je me dis que si tu veux arriver à pouvoir consentir d'une meilleure manière, il faut un panel vraiment varié de possibilités, quoi, à susciter.
Ce qui me fait penser beaucoup aux problématiques du pédagogue ou de la pédagogue, parce que, on en a déjà vécu l'expérience, mais ça peut être le cas dans d'autres choses, si on propose un panel d'activités qui ne sont pas accessibles à un certain public parce qu'il n'en a pas les compétences ou les capacités, ça peut être une mise en échec qui pose problème. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on propose l'acquisition de nouvelles capacités, des activités incapacitantes, pour que les personnes puissent ensuite aller vers d'autres choses qui leur permettent plus de puissance d'agir sur leur environnement. En fait, on doit assumer une posture où on sait faire plus de choses, etc. Mais comme la question du foot, si je sais faire d'autres activités que le foot et que j'ai pas envie de le vivre, est-ce que je suis aussi prêt à vivre le foot si l'activité se passe hyper bien, quoi. À ce moment-là, j'inverse le rapport de posture. Je pensais initialement les amener vers autre chose. En fait, non, c'est eux qui m'ont amené dans leur activité, quoi.
Donc, d'un côté, il y a toute une réflexion là, dans ce que vous exprimez tous les trois, sur comment susciter l'envie, le désir d'une expérience qui soit positive et enrichissante pour tous et toutes. Je dis enrichissante en comprenant aussi le fait qu'une expérience peut être désagréable et du coup, d'une certaine manière, nous enlèverait quelque chose, nous appauvrirait, je ne sais pas. Et d'un autre côté, le fait d'être ouvert au fait que au moment même où ces espaces et ces expériences sont investis, il y a quelque chose de l'ordre de l'attendu, en fait, qui peut avoir lieu. Roman, dans ce que tu as dit, tu as utilisé le mot de consenti, donc justement en faisant référence au consentement. J'ai eu l'impression de comprendre pourquoi est-ce que tu utilisais ce mot-là à ce moment-là. si je me trompe, tu peux me réexpliquer, c'est que au moment où on propose à quelqu'un de... On essaye de susciter son désir, c'est une forme de proposition. Si la personne y va librement, justement, on peut dire justement que c'est une forme de consentement, cette fois-ci, qui, dans la situation que tu décrivais, n'était pas de l'ordre du verbal, ni dans la situation décrite par rapport au foot, où du coup, les jeunes vont pouvoir aller se diriger vers l'activité qu'ils souhaitent ou qu'ils ont l'opportunité d'aller tester sans forcément s'y engager de manière trop forte, ce qui serait contraignant. Et du coup, la question du consentement dans ces expériences d'apprentissage, de rencontre, est essentielle dans le sens où j'ai l'impression que la manière que ce que vous considérez, c'est que c'est la manière avec laquelle ils approchent ces expériences que vous leur souhaitez enrichissantes qui va permettre qu'elles le soient réellement ou non. En tout cas, qu'elles le soient le plus possible ou de la manière la plus joyeuse possible.
C'est vrai que là, dans l'exemple qu'on donnait, c'était présenté comme eux, ils vont proposer des choses attendues mais qu'on n'estime pas, enfin, limitantes. Et nous, on a des choses sous le coude à leur proposer qu'on trouve épanouissantes, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils pourraient aussi eux-mêmes proposer des choses inattendues, ça veut dire qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils proposent ça, et que ce soit, on trouve ça cool, en fait, et, sans qu'on ait besoin de le valider ou pas, qu'on se dise, en fait, qu'est-ce qu'ils proposent, et comment on va vers ce truc, et comment on construit quelque chose avec ça, comment on fait aboutir ce truc-là. Et oui, ça, c'est clair que c'est la question. C'est aussi une question qu'il faut se poser.
En fait, il y a un rapport de curiosité à avoir tout le temps.
Ouais. La curiosité du pédagogue vis-à-vis de qu'est-ce qui est proposé, en fait. Pas forcément par lui.
Ouais, et du coup, rapport de curiosité qui, en fait, s'applique partout. Par exemple, avec l'environnement humain de Second Souffle, notamment toi, Roman, mais aussi d'autres personnes comme Aviv, j'ai découvert des habitudes culinaires différentes en allant dans des magasins asiates. J'y allais jamais avant. Et en fait, j'ai découvert quelque chose qui me plaît, en fait, vraiment. Je l'ai intégré dans les choses que je cuisine aujourd'hui parce que j'ai pu le découvrir grâce aux copains-copines qui sont à Second Souffle, quoi. Évidemment, j'y ai mis de la prudence, etc. Je me dis, oula, qu'est-ce que je vais goûter ? Mais par contre, d'avoir dépassé ce rapport-là, d'avoir été curieux sur cette connaissance-là, ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses.
Mais d'ailleurs, moi, ça me fait penser que, en général, les parents n'ont pas spécialement de curiosité sur la nourriture vis-à-vis d'autres goûts que pourraient avoir leurs enfants. C'est les parents qui décident de la nourriture pour les enfants. On mange tous la même chose et ce n'est pas possible d'avoir plusieurs choses différentes à manger à table souvent. Alors qu'on pourrait avoir plusieurs choses à table et que ce serait OK et que ce serait déjà un truc plus suscitant et qui respecterait plus le consentement des enfants à qui on ne demande jamais leur avis sur le menu. Alors que, par exemple, on n'obligerait jamais une personne qu'on a invitée, mais adulte, à finir son assiette avant de pouvoir entamer le dessert. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui arrive très souvent avec des enfants.
Ça s'inscrit un peu, ces choses-là, dans l'oppression que peuvent vivre les mineurs, l'oppression agiste, vis-à-vis de laquelle on est assez critique à Second Souffle.
Sur la question des repas, c'est assez flagrant, quoi. C'est, vous mangez ça, forcément les parents parfois adaptent quand même leurs pratiques en fonction des goûts de leurs enfants. Il y a quand même cette question du menu unique qui reste, quoi, qui subsiste. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiques qui s'adaptent en fonction d'autres choses. Si jamais on a un enfant qui est très allergique à quelque chose, alors on va se permettre d'être curieux, en fait, parce qu'on n'a pas le choix à ce moment-là. On est curieux parce que, on va peut-être tuer son môme. Du coup, on va réfléchir différemment à la question des menus, etc. L'agisme, en gros, ça se construit comme les mots racisme, sexisme, validisme. C'est l'oppression basée sur l'âge, c'est-à-dire que plus on a un capital d'années, plus on a des droits. Et donc, si on est en troisième, on a plus de droits que la personne en sixième, par exemple. Ou alors, si on est majeur, on a plus de droits qu'une personne mineure. Ou alors, si on est personne âgée, on est plus entendable, plus audible qu'une personne jeune. Mais à l'inverse, parfois, si on est trop âgé, alors à ce moment-là, on devient dépendante des autres, on n'a plus le droit de choisir, etc.
C'est un statut enfant.
Et du coup, l'âgisme, ça peut être aussi les plus âgés qui rentrent à un moment donné dans une dépendance vis-à-vis des autres, parce qu'on les considère comme plus utiles, par exemple. C'est une oppression qui nous semble assez centrale et très intersectionnelle vis-à-vis des autres.
Sachant qu'il y a quand même une rupture au niveau de la minorité et de la majorité, ou au niveau institutionnel, les mineurs sont vus comme quasiment sans droit, ou en tout cas sans droit autre que ceux de la protection, quoi.
Et ça me donne envie de vous poser une question. Si j'avais des enfants, Est-ce que si je leur propose un menu enfant, donc je leur dis, OK, on est au restaurant, nous on prend ça, on vous prend deux menus enfants, est-ce que ça vous va? Est-ce que s'ils répondent ou si elles répondent oui, est-ce qu'il ou elle consentent?
Eh bien, c'est marrant parce que j'ai exactement cette situation-là. Enfin, je l'avais exactement quand j'étais petite, où je me disais au McDo, OK, bah, y a le menu enfant, donc c'est ça que je dois prendre. Et sur les images qu'il devait y avoir, il y a le hamburger et les frites. Donc je me disais que c'était ça qu'il y avait dedans. Et pendant des années, je n'ai pas compris que je pouvais prendre autre chose qu'un hamburger. Donc j'ai pris pendant des années un hamburger, alors que je n'aimais pas ça et que je ne mangeais pas. Parce que bah, j'aimais pas ça. Mais que, en fait, c'était comme c'était la chose qu'il fallait avoir, bah, je disais oui. Et un jour, j'ai compris que je pouvais prendre autre chose. J'étais très heureuse. Mais j'ai consenti pendant des années, sans le vouloir, à quelque chose qu'on me proposait. Quoi.
C'est marrant de dire j'ai consenti sans le vouloir. Ça montre bien qu'il y a un problème dans cette situation. Et j'ai l'impression que, présenté comme ça, il y a plein de biais possibles. En fait, il y a plein de manières de voir qu'il y a des limites dans cette situation pour dire que le oui est un oui de pleine acceptation, d'autonomie, d'autodétermination, tel qu'on les a décrites à l'épisode précédent.
Il y a effectivement un élément là qui me paraît être important dans ce que tu viens de décrire, Roman, qui est que dans le consentement, moi, c'est un élément que je rattache beaucoup à l'acceptation commune du mot consentement, qui est beaucoup utilisé dans l'expression « qui ne dit mot consent », par exemple. Qui est que c'est une dimension sans implication, sans engagement de la personne qui consent, justement. Dans le sens où, devant la question binaire de « est-ce que tu veux ça ou pas ?», en fait, le fait de dire oui ou de dire non, il y a quand même une passivité dans la conception de l'option qu'on décide de prendre. Et du coup, cette passivité, je sais que c'est quelque chose qui est pas du tout par moi, hein. Moi, c'est, je crois, le travail d'une féministe dont je me souviens malheureusement plus du nom qui m'avait amené à critiquer le consentement de cette manière-là, qui renvoyait au fait que le consentement, tant qu'on le percevait comme d'une manière passive, où il y a une proposition qui est faite à quelqu'un et la personne ne dit que oui ou non, où ce sont ses seules deux options, et où elle ne participe pas de la construction de la décision commune, être sûr du consentement plein et entier de la personne qui consent est une chose qui est difficile.
Oui, et puis il y a d'autres limites dont on a déjà parlé dans les autres épisodes, c'est quel rapport ils entretiennent à ce moment-là, l'enfant et le parent. Le parent propose à l'enfant, en fait, il y a déjà des manières d'influencer. Il y a le rapport parent-enfant, il y a le rapport que impose un peu le McDo en disant « ceci est pour les enfants » et avec sa compréhension du monde, l'enfant, il a de fortes chances de voir que c'est une évidence, en fait, de choisir ça et que c'est une option. Mais l'autre option n'est pas envisageable parce que c'est le menu enfant, donc c'est censé être pour lui. Donc, en fait, il y a d'autres biais. Derrière ça, moi, je mets l'espèce d'illusion libérale dans laquelle tout le monde est toujours libre de décider de tout ce qu'il a envie. Chaque volonté est un peu maître. En fait, on peut dire oui ou non de la manière dont on veut à n'importe quel moment, sans influence. En fait, il n'y a rien qui nous influence, qui nous détermine d'une manière ou d'une autre.
Effectivement, le concept de consentement, il y a certaines critiques. Raph et moi, on vient d'en nommer deux, mais il y en a d'autres. C'est un concept qui est génial, parce qu'il est essentiel de se poser, je le dis, parce que c'est vraiment une victoire qu'il soit rentré dans la culture française aujourd'hui, et dans le langage et dans les questions qu'on arrive à se poser au quotidien. Il est loin d'être parfait. C'est juste pour ça qu'on en rappelle les critiques. Et du coup, une des dimensions là, qu'on va essayer d'aborder, c'est que le consentement entre adultes, le fait d'être entre adultes effaçant pas le fait qu'il y ait des rapports de domination, mais c'est juste que ça évacue au moins celui de l'agisme, c'est quelque chose qui va être justement, va nécessiter de l'implication pour qu'on puisse réussir à l'établir. Ce qu'on va essayer de faire là du coup, c'est de parler de comment est-ce qu'on réussit à le construire collectivement, de parler justement de ce qui va être nécessaire de mettre en place pour pouvoir s'en assurer et pour pouvoir faire en sorte qu'il soit enrichissant.
Ça me donne envie de l'appeler consentement triste et consentement joyeux en fait. Parce que si on consent comme tu le faisais, Roman, dans ton exemple du McDo, pour moi, je ne vois pas de joie là-dedans. C'est pas une rencontre qui, à mon avis, t'a apporté quelque chose de fondamental pour ta persévérance et pour ta puissance d'agir, etc. Donc, je n'y vois pas un consentement joyeux. Par contre, comment est-ce qu'on arrive à un consentement joyeux, c'est-à-dire qui augmente la puissance d'agir de la personne, quoi ? Il faut s'attacher, du coup, au processus, à ce qui est mis en place avant le consentement. Donc, pour moi, c'est pas le mot consentement qui pose problème, c'est effectivement l'étape d'avant, quoi. Je suis très content, moi, lorsque je consens à une prise de décision, lorsque soit j'ai été activement dans le processus de décision, c'est-à-dire qu'on est venu vérifier que j'étais d'accord avec ce qui se passait, que j'ai eu la possibilité d'améliorer la proposition, par exemple. Donc c'est des choses qui, c'est des prérequis d'une certaine manière pour que mon consentement soit joyeux. Ou alors, parfois, je peux avoir des consentements joyeux sans nécessairement que j'ai été activement impliqué sur la décision. Par contre, au préalable, j'ai construit avec les personnes qui ont pris cette décision des rapports de confiance, etc. Et du coup, le moment où il y a une décision qui est prise sans que j'ai nécessairement été impliqué dans cette prise de décision, je consens à ce qu'il ou elle fasse un choix. Et si on n'a pas ça, ce sera des consentements tristes.
Il y a une autre notion que moi je rajouterais à ça. Quand je veux qu'une décision collective dans les collectifs dans lesquels je travaille, quand je veux qu'une décision collective soit prise avec le consentement de tous, j'essaye aussi de m'assurer qu'il y ait un niveau d'information ou un niveau de compréhension de chacune des personnes qui participent à cette prise de décision-là, qui permettent qu'elle puisse donner son consentement en tant que telle. Que ce soit dans les chemins de pensée qui amènent aux propositions de la prise de décision, mais aussi dans les conséquences de la prise de décision. Alors il y a à cet endroit-là un lieu où je suis tiré entre deux choses, qui est que d'un côté, l'information et la compréhension totale ne sont pas possibles, et du coup, ça nécessite que ce soit un processus dynamique, que tout le monde puisse changer d'avis ou que des nouvelles informations puissent arriver, que notre compétence de compréhension de la situation vis-à-vis de cette prise de décision-là, elle change, donc que les règles de vie commune potentiellement changent, que les investissements de chacun changent ou qu'on décide de mener de nouvelles actions, d'en arrêter d'anciennes, que sais-je. Mais, et c'est dans l'autre côté où ça m'emmène, certaines décisions nécessitent de faire trace, d'être prises, que ce soit par des prises de responsabilité formelles ou par des difficultés matérielles de fonctionnement de l'espace collectif qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir changer les règles tout le temps parce qu'on ne va pas pouvoir solliciter tout le temps les personnes. Donc, certaines fois, les règles peuvent avoir une inertie due au fonctionnement du collectif qui va être handicapante. C'est une inertie d'ailleurs qui peut venir aussi de questions administratives ou de questions financières, pas que de questions de mobilisation personnelle ou mobilisation humaine, qui vont faire que malgré le fait que les opinions des personnes changent, les règles puissent rester immobiles et qu'il n'y ait plus le consentement des personnes dans la continuation des règles et que du coup il y ait une espèce de trahison de ce principe-là de fonctionnement.
C'est amusant, c'est incroyable, quand tu parlais Gaston, j'avais l'impression vraiment de reconnaître mon travail, les attentions que j'essaie d'avoir dans ma posture en tant que pédagogue, que je travaille, quel que soit le public avec lequel je travaille, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes adultes en formation, des adultes en formation, à chaque fois, il y a cette espèce d'histoire de transparence, de manière générale, tout ce que tu as décrit, j'aurais l'impression de faire un travail incomplet en tant que pédagogue, en tant que militant de l'éducation populaire, si j'avais pas l'attention que tu viens de décrire vis-à-vis des fonctionnements collectifs, quand on essaie d'aller au-delà de juste du consentement passif, l'espèce d'étude de toutes les conditions dans lesquelles il arrive. C'est quelque chose qui est, j'ai l'impression, essentiel quand on est dans un travail d'éducation populaire. Et Ça m'a assez marqué ce que tu disais.
On n'a pas beaucoup parlé de confiance en soi, mais ça m'y fait penser quand même ce que tu dis, parce que c'est systémique, quoi, ce truc-là. C'est, plus on a des espaces dans lesquels toutes les personnes font attention aux environnements créés et à leur rapport avec les autres, plus, en gros, chaque individu arrive à avoir de la confiance envers les autres, envers le collectif, mais aussi envers soi-même, parce que la parole est entendue. Si un ou une enfant nous propose quelque chose, si on l'entend comme quelque chose d'audible, quelque chose qui a de la valeur, on augmente très grandement sa capacité à avoir de la confiance en elle ou en lui, à terme en tout cas, et si tout le monde le fait évidemment, si le plus de personnes le fait. Du coup, c'est un truc qui me semble être difficile à envisager, évidemment, dans tous les espaces sociétaux aujourd'hui, parce qu'on est loin, loin de cette posture éthique, d'une certaine manière, quoi.
Spoiler alerte, il y a des oppressions dans la société.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est très connecté, quoi. J'ai pas envie de tomber dans une sorte de naïveté à se dire, OK, il faut que chaque individu fasse un peu, adopte une sorte de posture qui soit un truc de confiance, etc. Parce que je crois vraiment que ce serait tomber dans des naïvetés politiques sur du développement personnel, etc. Enfin voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus dire que ça n'a aucun impact, parce que ce serait dommage de ne pas agir aussi dans l'incapacitation des autres et de soi-même.
pour moi, c'est deux choses qui peuvent fonctionner en parallèle. C'est marrant parce que j'avais peur d'arriver et de mettre une deuxième couche sur les questions de règles collectives. La question de la posture, la question de comment est-ce qu'on construit des relations de sujet à sujet. C'est des choses qui sont effectivement très belles et qui fonctionnent dans le sens où on voit que ça fonctionne. On l'observe dans les relations avec les amis, dans les relations avec les amants, dans les relations avec la famille. Le souci que j'ai, moi, à la réflexion aujourd'hui, et je sais que c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi au sein de Second Souffle et sur lequel on fait des expérimentations, c'est le fait que c'est des choses qui peuvent être aussi accompagnées de fonctionnements structurels, de dispositifs formalisés, et du coup bien de réfléchir, je vais utiliser un gros mot, de réfléchir l'institution de fonctionnements collectifs qui permettent l'accompagnement, donc au sein de nos collectifs même de vie, de fonctionnement, de travail, qui ne sont pas du coup des collectifs de formation ou d'expérience éducative, mais dans lesquels il y a quand même des expériences pédagogiques, des expériences d'apprentissage, de réfléchir le fait que ces expériences d'apprentissage, ces rencontres avec des expériences nouvelles, avec des personnes nouvelles, soient rendues les plus joyeuses possibles, rendues les plus enrichissantes possibles par des règles collectives qui, et là je me trouve face à une difficulté, parce qu'elles sont assez difficiles à définir, elles dépendent tellement des besoins des personnes concernés par ces, qui pourraient être concernés par ces dispositifs. Moi-même, en tant que neuroatypique, je sais que j'ai besoin de certains dispositifs et je ne sais pas exactement desquels j'ai besoin. Et c'est justement tout un travail de réussir à les élaborer collectivement pour qu'ils deviennent institués d'un côté, mais qu'ils reflètent mes besoins personnels. Et la seule chose que je pourrais faire, c'est parler des expériences que j'ai pu faire pour que d'autres puissent s'en inspirer, mais sans que ces expériences puissent être identiques, parce qu'elles ne le seront pas, ni que ces dispositifs puissent leur correspondre à 100%, mais tout en restant des dispositifs institués et pas juste des questions de posture, même si l'un ne peut pas aller sans l'autre, justement. Ces deux fonctionnements sont nécessaires. Et pour pousser ces questions plus avant, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des questions de rapport à soi et de contrat social. Merci, c'était C'est quoi le rapport, le podcast de Second Souffle. À la semaine prochaine.
Salut.
Bisous.
À la semaine prochaine.
Second Souffle,
un méta-réseau
pour le déploiement
de l'éthique en société.
Apprendre, c'est organiser la rencontre.
Second Souffle, un collectif libertaire
et anti-agiste.